Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour
voilà,
à tous.
C'est l'heure des enjeux. Au sommaire aujourd'hui, la République démocratique du Congo, l'après-scrutin.
Et oui, vous l'avez entendu, c'est donc une alternance historique en RDC avec l'annonce de la victoire de l'opposant Félix Tshisekedi. On s'achemine vers la première transition démocratique, mais sur un résultat contesté toute la journée d'hier. Certains parlent d'alternance arrangée, l'autre partie de l'opposition se plaint, elle, d'un putsch électoral. Alors s'agit-il d'une défaite ou bien d'une manœuvre historique du parti au pouvoir? On en parle avec vous, Thierry Vircoulon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone ce matin avec nous. Vous êtes le coordinateur de l'Observatoire de l'Afrique australe et des Grands Lacs à l'IFRI, puis maître de conférence à Sciences Po. Alors, dans son discours, hier, Félix Tshisekedi se présente comme le président de la réconciliation nationale. Il a tendu la main au parti au pouvoir. On va voir pourquoi. En tout cas, je rappelle juste les scores. 38,57 pour lui, Tshisekedi. Moins de 24% pour Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat du parti au pouvoir. Entre les deux, sous 35%, c'est le candidat officiel, on pourrait dire, de l'opposition, Martin Fayoulou. C'est quand même le scénario le moins attendu. Est-ce que c'est une surprise pour vous, Thierry Vircoulon?
Oui, c'est une surprise, puisque c'est le troisième homme qui est déclaré vainqueur par la commission électorale. Parce que c'est les trois personnes dont vous avez parlé étaient les trois principaux concurrents de la compétition électorale. Et Félix Tshisekedi était, on peut dire, en troisième position.
Oui, et concernant la forme encore de l'annonce, c'est une annonce qui a été reportée elle-même sur un processus électoral qui a traîné pendant 2 ans. L'annonce devait être faite dimanche dernier, encore reportée, puis finalement ça s'est accéléré, elle a été faite dans la nuit de mercredi à jeudi. Pourquoi, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé?
Premièrement, les annonces de résultats électoraux en République démocratique du Congo sont toujours faites au milieu de la nuit, parce qu'il y a toujours des tensions électorales très fortes, donc on préfère annoncer ça quand les gens dorment. Mais à part ça, il est clair que le processus électoral a été émaillé de nombreuses irrégularités et que la commission électorale apparaît beaucoup comme une boîte noire, en fait. Où on ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais on sent qu'il y a beaucoup d'influence et beaucoup de pression. Et comme je le disais, il y a eu beaucoup d'irrégularités dans la préparation des élections et le jour du vote. Et du coup, ça donne l'impression que ces jours qui ont passé ont été ceux d'une tractation en coulisses, et qui ont donné ce résultat qui semblerait être un résultat plutôt négocié que le résultat des urnes. En tout cas, l'Église catholique, qui est la seule organisation qui a vraiment déployé des observateurs à peu près partout au Congo, dit que les résultats qu'elle a ne sont pas ceux de la commission électorale.
Oui, c'est ça, on va reparler des conditions du scrutin, mais c'est vrai que l'ASENCO, la conférence des évêques, qui avait dépêché, je crois, 40 000 observateurs, a parlé de résultats qui ne correspondaient pas à ce qu'elle avait enregistré. Parmi juste les réactions internationales, on les a vues tout assez prudentes, qui ont dit prendre note, qu'on appelait au calme de la part de l'Union européenne, Union africaine, ONU. Mais ce qu'on a vu hier aussi, c'est la France qui était inhabituellement ferme. Jean-Yves Le Drian parlait de résultats totalement différents. Il avait l'air vraiment dépité. Pourquoi, à votre avis, cette fois-ci?
Honnêtement, je ne sais pas. Parce qu'en effet, on n'a pas le Quai d'Orsay. On n'a pas l'habitude du Quai d'Orsay d'être le premier à tirer, si je puis dire. Les contacts, il y a eu des contacts entre la CENCO et les ambassades à Kinshasa. La CENCO a expliqué que a probablement donné ses chiffres aux ambassades.
Oui, ça veut dire qu'il a vu les résultats.
Pourquoi est-ce que c'est la Paris qui le premier ouvre le feu, ça je ne sais pas.
Et alors, juste 2 mots avant de parler de l'organisation du scrutin. Quoi qu'en disent les organisations internationales ou même le Quai d'Orsay hier, c'est vrai qu'il y a quand même eu peu de sondages, mais un seul, il m'a semblé en octobre dernier, l'a donné quand même Tshisekedi gagnant dans un score pas très loin de ce qu'il a obtenu finalement à 36%. C'était en octobre, quand il y avait encore une possibilité d'union qui n'avait pas été faite et que Martin Fayoulou n'était pas encore le candidat unifié de l'opposition.
Oui, oui, mais enfin, les sondages ne veulent rien. Enfin, les sondages, il y en a très peu, comme vous disiez, ils veulent rien dire parce que ils sont sur des échantillons qui sont beaucoup trop petits dans un pays de 80-85 millions d'habitants.
Alors qu'on dise un mot de Félix Tshisekedi, quand même, c'est le fils d'Étienne, le fils de l'opposant historique. Encore une fois, spéculation, mais est-ce qu'il n'y a pas une chance quand même qui ait eu à travers le vote, peut-être de manière inattendue, mais la reconnaissance de cette opposition historique de l'UDPS de feu Étienne Tshisekedi?
Bah, il a un nom qui est en effet connu en République démocratique du Congo. Il n'a pas la même image que son père et la façon dont il a géré la période du glissement, c'est-à-dire de 2016 à maintenant, a été souvent critiqué dans l'opinion publique congolaise. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de suspicions et qu'il y a un parfum d'entourloupe autour de ces résultats électoraux qui sera difficile de dissiper. À la fois parce que, comme je l'ai dit, personne n'a confiance dans la commission électorale puisqu'elle apparaît comme étant tout sauf transparente, et parce que Félix Tshisekedi, même s'il a un nom très connu, n'a pas la stature de son père et a été dans des tractations aussi en coulisses avec Joseph Kabila. Donc tout ça donne une impression assez étrange.
Oui, d'ailleurs, Félix Tshisekedi, puis l'UDPS, son parti, c'est vrai, avait mené une campagne, on pourrait dire, dans la presse belge de rapprochement déjà, au point qu'il a même rendu hommage à Joseph Kabila. Tshisekedi, dans Le Soir en Belgique, il lui a rendu hommage pour avoir accepté de se retirer, dit-il, et pourquoi, compte tenu de son expérience, ne pas lui confier des tâches diplomatiques spéciales, faire de lui un ambassadeur extraordinaire du Congo. Ça, c'était avant l'annonce du résultat. Ça fait partie des signes qui laissent entendre qu'il y a effectivement un arrangement sur ces élections.
Ce sont des déclarations publiques, mais surtout, et ça a été reconnu par le camp de Tshisekedi, depuis le 30 décembre, il y a eu des contacts entre son entourage et puis l'entourage de Joseph Kabila. Donc il y a eu déjà, comme vous le disiez, des contacts antérieurs au 30 décembre, et il y en a eu après.
Et alors, maintenant, on va voir les résultats définitifs. Il y a 10 jours pour faire des recours. Est-ce qu'il y a une chance qu'il y ait une voie légale pour que l'opposition de Martin Fayoulou, donc, qui, je le disais, parlait de putsch électoral ou de vol, puisse faire entendre sa voix?
Oui, il y a une possibilité. Qui est dû au fait qu'il y a quand même 1,2 million d'électeurs qui n'ont pas pu faire valoir leur, qui n'ont pas pu voter, puisque la commission électorale a repoussé les élections dans 4 circonscriptions et les a repoussées étrangement au mois de mars. Donc il y a 1,2 million d'électeurs qui n'ont pas pu voter le 30 décembre et la marge de différence entre le nombre de votes de Martin Fayoulou et de Félix Tshisekedi est de 700 000 voix.
Oui, donc
700 000 voix. Tout le monde avait été très surpris par cette décision de la commission électorale de repousser le vote dans ces 4 circonscriptions. Et donc on se demande si sur la base de cette décision, la Cour constitutionnelle ne pourrait pas annuler les élections.
Bon, ben, à voir l'attitude de la Cour, le recomptage éventuel. Dernière chose, une citation, un commentaire, un des plus brutals qu'on puisse trouver, c'est un membre de la MONUSCO cité par l'AFP. Tshisekedi n'a pas la capacité de gouverner ni aucun moyen de contrôler l'armée ou les nominations ministérielles. Il fera ce qu'on lui dit avec un pistolet pointé sur la tempe, donc celui de Joseph Kabila. Est-ce que vous seriez assez d'accord, même si la formulation est un peu moins brutale?
Il est clair que, comme je disais, il y a un parfum d'entourloupe autour de cette élection, et que s'il y a une alternance aujourd'hui, en tout cas vu les résultats qui ont été donnés, on ne sait pas s'il va y avoir un changement de pouvoir, et on reste à cause des conditions dans lesquelles se passait ce scrutin, on reste quand même dans le scénario d'un passage de pouvoir sous contrôle de Joseph Kabila. Le scénario initial, c'était de passer le pouvoir à Emmanuel Chadari, et donc là, qu'il n'y ait pas en fait de changement de régime. Aujourd'hui, on voit que ce n'est pas c'est Félix Tshisekedi, donc il va y avoir un changement, mais est-ce que pour autant il va y avoir un changement de régime? Est-ce que pour autant, quel va être le rôle de Joseph Kabila l'après-Joseph Kabila? C'est ça toute la question aujourd'hui.
C'est ça, on aura le temps d'en reparler, mais merci pour vos explications aujourd'hui, Thierry Vircoulon, et bonne journée.